Il paraît que pour avancer, il faut savoir tuer le père. Le tuer, c'est-à-dire le destituer du caractère indépassable de son autorité. Ne plus le tenir pour norme, ni obstacle, et le remettre à sa place, ni au-dessus, ni à côté. Ce qui ne veut pas dire que le père est inutile, bien au contraire, mais qu'il faut savoir quoi en faire. Françoise Dolto, Carl Jung, Mélanie Klein et Félix Guattari ont en commun d'avoir hérité du père de la psychanalyse, Sigmund Freud, en le critiquant pour certains, en lui faisant la peau pour d'autres, en lui restant fidèle pour les troisièmes. La psychanalyse après Freud, c'est cette semaine sur les chemins de la philosophie avec aujourd'hui Françoise Dolto par Caroline Eliachef.
What sort of man was Freud?
Well, he was a complicated nature, you know.
Avec tout le côté complexe d'Oedipe,
je n'ai aucun différent avec le docteur Jung.
Je suis très attaché à ma maman. Est-ce que c'est grave? Combien je dois, docteur?
Je me suis trompé sur son compte. Voilà tout.
Tous les papas, tous les surmois.
Toute vérité est-elle bonne à dire ou pas?
Où est mon ticket d'or? Je veux mon ticket d'or!
Mais naturellement, surtout à des enfants de 8 ans et 6 ans, il faut absolument dire la vérité.
Vas-y.
Il faut que les parents aient une idée pour leur propre éducation et qu'ils n'écoutent pas tout le monde, y compris pas toujours d'écouter Mme Dolto, hein, parce que Mme Dolto, elle dit aussi quelquefois des bêtises.
À vous dirai-je, maman, ce petit cause mon tourment. Cette très vieille chanson, je la chante à ma façon. Je voudrais aussi te dire à toi, maman, oui, te dire ce qui cause mon tourment. Expliquer pourquoi, malgré moi, bien souvent, je ne suis pas toujours très obéissant. Je fais pourtant tout pour être un peu plus sage. Pour y arriver, il me faut du courage. Mais pourtant, malgré mes bonnes résolutions, je reste le roi de la démolition.
Mais bonjour Caroline Eliachef.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. C'est un plaisir de vous recevoir à ce micro, micro que vous connaissez bien, parce que vous aviez travaillé pour France Culture, les chroniques de France Culture pendant des années, donc bien welcome back, comme disent les Anglais, il n'y a pas tellement d'équivalent en français. On parle de Françoise Dolto aujourd'hui, Françoise Dolto dont le nom est encore cité très souvent, mais dont la personne de Françoise Dolto et son travail sont de moins en moins connus. Vous y avez un peu remédié avec votre ouvrage consacré à Dolto.
J'espère.
Qui s'appelle Une journée particulière chez Flammarion, où on suit Françoise Dolto du réveil jusqu'au coucher. Pourquoi avoir suivi cette forme-là?
Écoutez, j'ai essayé de trouver une forme qui permette de décrire tous les aspects de sa vie, parce que nous sommes encore nombreux à l'avoir connue, côtoyée, à avoir travaillé avec elle. Mais quand on a travaillé avec elle, on a travaillé avec un seul aspect de son travail. Soit on suivait ses consultations à Trousseau, soit on était en analyse avec elle, soit on était en contrôle, soit on travaillait à la Maison Verte, et puis le reste, on l'ignorait. Et donc, cette forme de raconter une journée de 7h du matin à minuit me permettait d'évoquer tous les aspects de sa vie. Dans une journée, comme vous savez, on pense à hier, aujourd'hui, demain, on pleure, on rit, voilà. Donc, ça permet de faire une sorte d'aller-retour qui me permettait d'évoquer tous les aspects de sa vie, y compris sa vie privée. Et comment elle était dans la vie privée, c'était une personne très drôle, qui avait énormément d'humour, elle en avait aussi dans les cures d'ailleurs, mais voilà, c'est pas cette icône, cette femme dont on dit c'était une clinicienne de génie, etc., etc. Voilà, donc ça m'a permis d'évoquer tous les aspects de sa vie, enfin j'espère.
Vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste, quel est votre lien à Françoise Dolto?
Alors moi j'ai été en analyse avec Lacan à une époque où il y avait Lacan-Dolto. Donc la logique aurait voulu que j'aille immédiatement aux consultations de Trousseau, mais il se trouve que moi je travaillais aux enfants malades et que je travaillais avec une autre psychanalyste, Ginette Rimbaud, que je voyais tous les jours pendant 20 ans. Et donc je trouvais que ça suffisait comme ça. Et donc c'est beaucoup plus tard que j'ai approché de plus près Françoise Dolto, d'une part en faisant avec Catherine, sa fille, et Jean-Pierre Winter des enregistrements. On a enregistré 18 heures d'entretien avec Françoise Dolto, ces enregistrements servent maintenant à tous ceux qui veulent faire des émissions sur Françoise Dolto. Et puis surtout, j'ai repris sa consultation des nourrissons qu'elle faisait pour la pouponnière d'Anthony, et pendant ce moment de passage, j'ai assisté assister pendant 2 ans à ces consultations avec les nourrissons. Consultations que j'ai ensuite reprises. Mais c'était beaucoup plus tard dans ma vie. J'étais déjà psychanalyste, déjà formée, etc. Et donc, c'était particulier parce que elle avait moins l'effet gourou qu'elle pouvait avoir sur les jeunes. Et bon, ça j'ai apprécié aussi de pouvoir à la fois la connaître et prendre un petit peu de distance, ce qui n'était pas si facile.
Parmi les choses qui sont associées au nom de Françoise Dolto aujourd'hui, il y a l'idée selon laquelle elle aurait été la première à introduire l'enfant en psychanalyse, et l'enfant, c'est-à-dire non pas simplement un tube digestif qui parfois se met à parler au bout d'un certain nombre d'années, mais l'enfant comme un être pensant, y compris au moment de sa vie intra-utérine. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, c'est vrai. Mais c'est une époque. C'est-à-dire, je pense que c'est important quand on parle de Françoise Dolto de la resituer dans l'époque. D'abord, entre le moment où elle est devenue connue, c'est-à-dire les années 70, et le moment où elle a commencé à travailler les années 40, elle n'a quasiment pas varié. C'est-à-dire, ce pourquoi elle a été connue, elle le disait déjà depuis 1940. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi à un moment, elle a été écoutée. Et évidemment, pendant toute cette période, d'autres personnes ont essayé, pas forcément sans succès d'ailleurs, de changer la perception qu'on avait de l'enfant. Et cette perception, c'est pas seulement les psychanalystes qui l'ont changée, c'est également les médecins qui ont commencé aussi à s'intéresser différemment aux enfants. Alors, ce qu'elle dit, elle, qui est encore révolutionnaire aujourd'hui, c'est l'enfant dès sa conception est un être de désir, est un être de communication, et il faut lui parler et lui dire des choses vraies. Alors, qu'est-ce que c'est des choses vraies ? C'est pas comment marche l'électricité. Les choses vraies, c'est les choses qui le concernent. Qui est son père ? Qui est sa mère ? Comment s'appellent les parties de son corps ? Où est-ce qu'il habite ? Des choses qui le concernent. C'est pas de le gaver de paroles pas inutiles. Mais enfin, voilà, les choses vraies, c'est les choses qui le concernent. Et ce qu'elle dit aussi, à l'époque, tout le monde se moquait d'elle, c'est le nourrisson, quel que soit son âge, comprend. Alors, il comprend. Qu'est-ce qu'il comprend ? Est-ce qu'il comprend le sens ? Alors, elle disait oui, il comprend le sens parce que c'est le sens de l'affectivité. Il ne comprend pas chaque mot l'un à côté de l'autre. Alors là, évidemment, on l'a considéré comme zinzin. Comme
c'est la première à dire ça ?
Écoutez, je crois.
Parce que Freud ne disait pas ça, par exemple.
Freud n'a jamais vu un enfant.
Ah oui.
Freud ne s'est jamais occupé d'un seul enfant. L'analyse du petit Hans n'est pas le petit Hans n'a pas été voir Freud. Freud recevait son père et parlait à son père qui parlait à son enfant. Donc Freud a imaginé le développement de l'enfant à travers les psychanalyses d'adultes, ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est d'ailleurs fabuleux. Mais lui ne s'est jamais occupé d'enfant, et d'ailleurs on pensait à l'époque que c'était pas possible. Et Anna Freud, donc, qui elle s'est occupée d'enfants, avait une vision éducative.
Donc la fille de Freud. Ouais.
La fille de Freud avait une vision éducative de la psychanalyse. Elle pensait que les découvertes de la psychanalyse devaient servir à éduquer les enfants. Alors, il y a quelque chose aussi de très important avec Françoise Dolto, et vraiment j'insiste là-dessus, c'est que tout ce qu'elle a appris des enfants, puisqu'elle disait que ses maîtres, c'était certes Freud, mais c'était avant tout les bébés, elle a voulu en faire profiter la société, toute la société et en particulier les parents. Mais ce qu'elle a soutenu, c'est que la psychanalyse avec les enfants ne doit en aucun cas être éducative. Ce sont les parents qui éduquent. Les psychanalystes n'ont aucune fonction éducative. Et ça, c'était pas évident, et c'est pas tous les psychanalystes qui pensent ça.
Alors avant de concevoir une psychanalyse avec un nourrisson, il faut d'abord savoir lui parler. Et c'est ce qu'on voit dans un film qui est sorti l'an dernier, Caroline Eliachev, qui s'appelle Pupille, un film de Jeanne Herry, qui raconte une mère qui accouche et décide de ne pas garder cet enfant. Cet enfant a donc pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, n'a pas de famille. Et écoutez comment la personne qui s'appelle la recueillante, celle qui va aider la mère à accoucher sous X, va parler à ce petit garçon.
Bonjour, je suis Mathilde François, la recueillante.
Ah oui, bonjour.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la nuit de l'accouchement, la maman est venue voir son bébé.
Elle est venue pour lui dire au revoir, mais elle n'a rien dit. Elle n'a pas parlé. Rien. Oh.
Théo, je t'ai vu à la maternité quand tu es né, mais tu dormais. J'ai vu ta maman aussi. Elle n'a pas pu te parler, mais elle voulait le faire. Je veux te dire que ta maman t'a remis à l'adoption parce qu'elle voulait que tu sois heureux, qu'elle a voulu le mieux pour toi, qu'elle t'a trouvé beau, qu'elle s'est inquiétée de savoir comment tu allais.
Lorsque Françoise Dolto rencontre un nourrisson de 14 mois qui semble dépressif, elle lui dit « Peut-être veux-tu mourir ? Eh bien, tu vois, moi, je ne t'empêcherai pas de mourir. Mais tu sais bien qu'à la pouponnière, tu ne pourras pas. Je préfère, si tu veux, que tu m'expliques pourquoi tu veux mourir. À ce moment, quand tu l'auras dit, tu seras peut-être capable de vivre. » L'extrait du film Pupille est bouleversant parce qu'on voit comment cette femme s'adresse directement à un enfant en lui disant les choses telles qu'elles sont, ce que vous disiez, Caroline Eliashoff. Hein. Et la citation que j'ai lue de Dolto est encore plus forte parce que là, elle parle de vie et de mort. Un enfant qui lui paraît mal en point, oui, dépressif, elle lui dit carrément « Bah oui, je pense que tu veux mourir, bah sache que c'est pas possible, donc essaye de me dire pourquoi tu veux mourir et ça ira mieux. » Mais l'enfant a 14 mois.
Bah oui, l'enfant. Alors, vous n'avez peut-être pas la suite. Écoutez, ces deux extrêmes me rappellent incroyablement ma propre pratique. Hein, donc, là, effectivement, vous voyez, il m'est arrivé de voir des enfants de la pouponnière, justement, qui allaient 36 fois à l'hôpital, parce qu'évidemment, les enfants sont soignés quand ils vont mal. Et à un moment, on lui dit, écoute, si tu veux mourir, tu ne vas pas pouvoir en allant à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, on ne laisse pas les nourrissons mourir. Donc, tu ne vas pas y arriver. Donc, effectivement, il faut que tu arrives à dire pourquoi tu veux mourir. Et à ce moment-là, l'enfant vous regarde avec vous regarde tellement intensément que on comprend que voilà, il s'est passé quelque chose.
Mais et ça ensuite, c'est fou parce que le mot mourir ne peut rien signifier pour lui. Bah, qu'est-ce qu'il comprend ?
Qu'est-ce que vous en savez ? Il semble que oui. En tout cas, la cure continue. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à ce moment-là, l'enfant fait quelque chose. Se met à pleurer ou au contraire s'endort ou il fait quelque chose qui dit que il raconte quelque chose d'avant hein, puisque la cure c'est toujours pour le passé et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que un enfant qui se met en boule par terre, c'est pas pour vous embêter ou parce qu'il veut pas de sa séance, c'est parce qu'il vous raconte quelque chose de quand il était dans cette situation là voilà. Et donc ça fait des effets extraordinaires, il faut quand même le reconnaître. Tous les gens qui disent les enfants ne comprennent rien, etc., quand une fois dans sa vie on a assisté à ça, par exemple pour les parents qui sont allés à la Maison Verte, donc cette création.
Alors qu'est-ce que c'est la Maison Verte? Oui.
Alors cette création de François Dolto, qui est ce pourquoi elle devrait être, à mon avis, le plus connu, ils ont assisté à ça. Donc la Maison Verte, c'est un lieu. Alors d'abord, il y en a partout. Hein, partout en France, partout dans le monde, donc c'est déjà assez incroyable. C'est un lieu qui a été pensé, conçu, aimé par Françoise Dolto et évidemment d'autres personnes, où sont reçus les parents ou un adulte qui accompagne l'enfant et l'enfant aux heures d'ouverture, sans donner son nom, sans donner son numéro de sécurité sociale, de façon anonyme. On connaît seulement le prénom de l'enfant. Et voilà, les gens sont là, les enfants jouent. Et l'idée de Françoise Dolto, c'était de prévenir les séparations normales de la ville, l'entrée à la crèche, éventuellement l'hospitalisation, c'est déjà moins normal. Et surtout, de prévenir les dysfonctionnements qui surviennent entre les parents et les enfants très précocement, justement par une non-compréhension de ce que le nourrisson exprime. Donc ces lieux-là, je pense, sont au moins aussi importants que la création des écoles maternelles en 1920. Écoles maternelles qu'on appelait à l'époque des asiles. Il faut quand même le savoir. Donc,
d'ailleurs, Dolto n'était pas en faveur de la scolarisation précoce des enfants. Elle disait que la maternelle, qui est trop normative, empêche un développement.
Oui, c'est surtout qu'elle était contre la scolarisation à 2 ans parce que les écoles ne sont pas adaptées aux enfants de 2 ans. Et elle pensait également qu'un enfant qui va à l'école doit savoir qui qui il est, connaître son nom, qui sont ses parents, connaître les parties de son corps, et avoir été préparé à ces séparations dites normales de la vie. Un enfant de 2 ans n'y est pas forcément préparé.
Pourquoi vous insistez sur le fait que l'enfant doit savoir qui il est et qui sont ses parents? Parce que généralement c'est le cas, sauf dans le cas de Théo, le personnage de Pupille.
Écoutez, c'est pas toujours le cas, et en particulier dès qu'on passe les parents et qu'on passe aux grands-parents, ils savent plus très bien qui sont les grands-parents paternels, les grands-parents maternels, et encore ça c'est dans des familles, qu'on appellerait maintenant classiques, mais il y a toutes sortes de figures un peu compliquées où les enfants sont pas toujours au courant de qui est la tante, qui vit à la maison, leur adresse, où habitent-ils. Il y a des enfants assez âgés qui savent pas où ils habitent. Mais si vous voulez, tout ça ne prend sens que si ça a été formulé et expliqué en présence de la personne qui assure la sécurité de l'enfant. C'est pas à l'école. Enfin, on apprend beaucoup de choses à l'école, mais pour aller à l'école et pour être curieux d'apprendre, eh bien, il faut déjà que la curiosité que l'on a par rapport à sa propre famille soit satisfaite. Sinon, on est un peu bloqué.
Et Françoise Dolto a appliqué ce prérequis à son propre cas, car dans son travail, elle n'a eu de cesse de puiser dans sa propre biographie pour essayer de faire ce travail d'abord, de l'appliquer à elle-même et ensuite d'en mesurer les conséquences. Avant qu'on avance, Caroline Eliachev, pour voir aussi mesurer l'apport de Françoise Dolto à la psychanalyse, l'héritage de Freud et sa rencontre avec Lacan, je vous propose qu'on écoute un texte que Françoise Dolto, enfin une lettre qu'elle a écrite à sa mère, parce qu'elle a bien dit, j'ai commencé mon analyse dans le désespoir, le chagrin et surtout la culpabilité vis-à-vis de ma mère que je désespérais. Écoutez une lettre qu'elle lui adresse et vous nous direz ensuite comment la relation à sa mère a été déterminante dans sa propre analyse.
Chère maman, je me rends très bien compte, tu sais, de l'humiliation que je t'ai causée, de la déchirure profonde que tu as ressentie à propos de moi cette année. Je ne me suis pas montrée digne de toi, de ton énergie, de ta volonté, de ta grandeur morale. Aussi, ce qui m'a touchée, c'est ton attitude de pitié à mon égard. Je te remercie beaucoup. Tu me reproches peut-être en me lisant d'être sèche, je le crains. Et si tu voyais pourtant le fond de moi-même pendant que j'écris, tu verrais que cela ne vient que de l'impossibilité de faire des phrases. Mais je ne pense pas sèchement. Après tout ce que tu as passé pour moi et à cause de moi, je voudrais tant que tu sois un jour de nouveau fier de moi. Et sans en espérer tant, que tu comprennes mon affection et mon désir de devenir une femme digne de toi. Même si je ne peux pas t'imiter en tout, faute de moyens, je me rends compte de tout ce qui me manque en comparaison de toi. Mais je suis sûre qu'en sachant me contenter de ce que j'ai reçu, je pourrai, quand je serai parfaitement guérie, fonder une famille où tous seront heureux. C'est mon plus cher désir. Et ce sera, n'est-ce pas, le meilleur moyen de te remercier de m'avoir donné la vie. Et le reste... À bientôt, ma chère maman. Je t'embrasse. Je sais que tu ne peux pas oublier et je ne te demande que pardon.
Pendant 2 jours, j'ai été entre la vie et la mort. Et ma mère m'a sauvée. Elle m'a sauvée parce que d'abord j'étais au sein et qu'ensuite elle ne m'a pas couchée pendant 48 heures. Elle m'a gardée contre elle, debout, pour que je n'étouffe pas. C'est formidable. Elle m'a sauvée à ce moment-là. La relation à la mère est une relation de langage qui s'inscrit par la santé ou par la mauvaise santé dans le corps de l'enfant. Le psychique et le somatique sont absolument liés. C'est un langage inscrit dans la santé ou dans la maladie et qui est fantastiquement important avant qu'il y ait le langage parlé. L'extraordinaire, c'est que le langage parlé, quand il est juste et qu'il dit à l'être humain enfant tout ce qui se passe et qui le concerne, ça lui permet de survivre aux épreuves. Tandis qu'autrement, il est obligé de manifester l'épreuve d'une manière du langage du soma, c'est-à-dire par la maladie. Si c'est au contraire une joie, il le symbolise par le langage de la santé. La santé est tout aussi psychosomatique que la maladie. C'est l'inscription du bonheur de vivre avec ceux avec qui on est.
France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett.
aujourd'hui en compagnie de Caroline Eliashev. La santé, c'est l'inscription du bonheur de vivre avec ceux avec qui l'on est. Ça, c'est Françoise Dolto qui le dit dans une archive diffusée sur France Culture en 1986. On a entendu avant un texte, une lettre qu'elle a écrite à sa mère, lue par la comédienne Noémie Lvovsky. Autant d'éléments, Caroline Eliashev, pour mesurer le rapport de l'importance à la mère pour Françoise Dolto. Là aussi, on se dit, mais ça paraît évident en psychanalyse que le rôle, la relation à la mère est importante. Qu'est-ce que Dolto apporte?
Alors d'abord, dans cet extrait, dans ce que dit Françoise Dolto, ce qui est intéressant, c'est que sa mère a eu une réaction assez extraordinaire, puisque sa fille a failli mourir et qu'elle l'a gardée contre elle. Mais pourquoi est-ce qu'elle a failli mourir? Elle a failli mourir parce que la nurse qui s'occupait de la petite Françoise avait été brutalement renvoyée et qu'on ne lui en avait rien dit. Et elle en est tombée malade.
Elle avait une bronchite, enfin une maladie des poumons.
La petite Françoise, qui s'appelait Françoise Marette, en est tombée malade. C'est une maladie d'amour. On l'a privée sans explication de sa nurse. Elle en est tombée malade et sa mère, en la gardant contre elle, lui a permis de vivre, mais pas en lui disant ce qui s'était passé. Donc ça, c'est une première chose très intéressante. La deuxième chose, cette lettre qui est très touchante, dit quelque chose des rapports extrêmement difficiles de Françoise à sa mère, puisque l'événement qui a marqué la vie de cette mère et évidemment de toute la famille, c'est la mort de Jacqueline, la sœur aînée de Françoise, qui est morte à 18 ans d'un cancer qui à l'époque ne se soignait pas. Et à la suite de ce décès, sa mère, on va dire, est devenue folle. Et c'est cette folie, parfois transitoire, elle n'était pas folle tout le temps, s'est reportée sur Françoise et... il est tout à fait incroyable que ça ne l'ait pas complètement détruit, puisqu'elle l'empêchait de passer ses examens, elle l'empêchait de faire médecine, etc., etc. Et surtout, elle l'injuriait, elle la traitait mal, enfin, c'était absolument abominable. Et Françoise n'avait que compassion pour sa mère. Elle a eu énormément de mal à arriver à critiquer sa mère. Donc là, elle a eu une expérience personnelle tout à fait incroyable. Mais si vous voulez, quand ensuite on voyait des enfants extrêmement détruits par leur mère, ce qui était tout à fait extraordinaire pour nous qui étions pas comme elle, on va dire, c'était cette capacité qu'elle avait de ne jamais juger les parents, quels qu'ils soient. Et ça nous paraissait assez extraordinaire. On avait du mal, franchement, on avait du mal. Et en même temps, si vous voulez, pour un psychanalyste, s'il commence à juger les parents, c'est pas la peine de s'occuper des enfants. Parce que l'enfant qui vient voir un psychanalyste, il vient avec ses parents.
Oui, mais là, elle était à la fois psychanalyste et fille de sa propre mère. Donc le jugement, il est forcément, il peut pas être objectif, il peut pas être distancié.
D'accord, mais c'est sa propre psychanalyste qui lui a permis de se distancier. Et en particulier, une intervention de son psychanalyste qui, à un moment, lui a dit, si vous n'arrêtez pas votre mère quand elle vous injurie comme ça, vous n'y arriverez pas.
Et elle écrit d'ailleurs, une fois qu'elle a passé sa thèse, elle dit « J'ai passé ma thèse et j'ai demandé à mes parents de venir à la soutenance. Je crois que ma mère était contente que je passe ma thèse, la médecine l'a toujours intéressée, mais c'était très ambivalent. Le lendemain, elle a mis sur la thèse, dont je leur avais dédié un exemplaire, un paquet de saloperies pleines de graisse. Quand je l'ai vue, je lui ai dit que je lui apporterais un autre exemplaire, elle a répondu « C'est pas la peine, hein, c'est tout ce que ça mérite, c'est dégoûtant de faire une thèse de psychanalyse, Freud était un vilain monsieur ».
Oui, voilà, sa mère pensait comme ça. Elle pensait qu'une fille qui travaillait ne pourrait pas se marier. Et en même temps, cette femme n'était pas bête. Elle était même plutôt très intelligente. Mais elle avait vraiment reporté tout ce qu'elle avait, on va dire, de négatif sur Françoise, qui a eu besoin d'une psychanalyse pour prendre de la distance. Mais c'est au moment où elle a pu arrêter sa mère... et lui dire « ne me parle plus comme ça, ça suffit », puisqu'elle l'a traité de putain, etc., etc., que sa mère s'est remis un petit peu les pendules à l'heure. Ça n'a pas duré, Françoise a dû partir, etc., mais quand même, ça c'est une grande leçon qu'elle a tirée de sa propre psychanalyse. Il faut arrêter les gens qui dépassent les bornes.
Y compris quand c'est sa propre mère.
Exactement.
Ça veut dire que pour elle, l'analyse était une question de survie.
À ce moment-là, oui, c'est-à-dire elle avait commencé sa médecine, donc elle était enchantée d'avoir commencé sa médecine, et puis brusquement, elle n'y arrivait plus, elle n'arrivait plus à se concentrer, etc., etc. Et dans cette famille qu'on dit très traditionnelle, etc., elle est allée voir son père. Son frère avait déjà commencé une psychanalyse, et son père lui a dit « Mais oui, ma petite Françoise, si tu as besoin d'une psychanalyse, vas-y, etc., etc. » Ce qui, à l'époque, n'était pas tout à fait banal, le moins qu'on puisse dire.
Et donc, qui va-t-elle voir à ce moment-là?
Elle va voir Laforgue, qui a été son analyste. Et alors, ce qui est aussi particulier par rapport aux gens de sa génération, à sa génération, les psychanalystes faisaient une analyse qui durait genre 6 mois. Avec Freud, les analyses duraient à peu près 6 mois. Elle est une des rares de sa génération à avoir fait une analyse qui durait 3 ans. Et c'est sur son insistance qu'elle a fait une analyse aussi longue pour l'époque, on va dire. Donc tous les gens de sa génération, Lacan, Nasht et les autres, ont fait des analyses très brèves. Donc aujourd'hui, on se demande s'ils étaient vraiment analysés.
Et puis la rencontre avec Lacan va changer aussi le cap de sa carrière. Écoutez comment elle en parle.
Lacan a fondé l'école freudienne et il a accepté que je vienne à son école freudienne. Et il était tout à fait d'accord avec ma façon de travailler. Et moi, j'étais très intéressée par ce qu'il disait. J'ai suivi son séminaire dès le début. Et quand je lui disais, car c'est vrai, que je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais que quand je comprenais, pour moi, c'était illuminant d'une multitude de cas. Et c'est ça qui m'intéressait. Elle me répondait, mais c'est pas étonnant que tu ne me comprennes pas. Et ça n'a aucune importance, puisque toi, tu fais ce que moi, je théorise. Et il avait très confiance dans ma façon de travailler, puisque il m'envoyait très souvent des gens et me demandait de prendre, et que j'acceptais toujours, parce que j'estimais que s'il pensait que je devais prendre les personnes qu'il m'envoyait, c'est qu'il devait voir juste, même si, a priori, ces gens ne seraient pas venus directement chez moi.
Il faut prendre la mesure de ce qu'était ce qu'on peut appeler le couple Dolto-Lacan à l'époque, hein, Caroline Aliachef.
Oui, c'est un couple mythique qui en fait n'en était pas un, puisque en fait ils n'étaient pas du tout proches, ils n'étaient pas amis, ils étaient, on va dire, collègues. Alors ils sont de la même génération. Comme dit très bien Françoise, elle comprenait pas trop ce qu'il disait.
Encore personne ne comprenait ce que Lacan disait.
Mais au moins elle le disait, parce que elle les autres faisaient semblant. Et en même temps, ce qu'elle dit est tout à fait exact. Quand on assistait au séminaire de Lacan, évidemment qu'on ne comprenait pas tout. Personne ne comprenait tout. Mais de temps en temps, d'abord, on avait l'impression qu'il s'adressait à chacun d'entre nous. Donc ça, c'était assez spécial. Et puis, de temps en temps, il y avait des fulgurances où effectivement, on se disait « Ah mais oui, pour cette personne, c'est ça. » Et c'est ça qu'elle décrit très bien. Alors, elle-même ne s'est jamais servie des concepts lacaniens, parce qu'elle a forgé ses propres instruments de travail. Mais nombre de psychanalystes ensuite, par exemple Denis Vasse, mais il y en a d'autres, ont expliqué, ont tenté de faire le lien entre ce que faisait Françoise Dolto et la théorie de Lacan. Et par ailleurs, ce qu'elle disait, c'est que quand elle prenait des psychanalystes en contrôle, elle disait « ce sont les analysés de Lacan qui s'en sortent le mieux ». Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait pas du tout dire qu'on était géniaux, loin de là. Ça voulait dire, d'après ce que j'ai compris, qu'au moins, on n'empêchait pas les enfants de travailler, ce qui est essentiel pour un psychanalyste. On n'empêchait pas les enfants de travailler et on n'essayait pas de les éduquer. Ça, c'était vraiment un dada tout à fait essentiel, hein. Vous n'avez pas à intervenir dans l'éducation des enfants. Alors, effectivement, les analysés de Lacan ne faisaient pas de pédagogie. Mais voilà, et donc il y a vraiment. Alors, ils se sont suivis aussi dans les affres des
comment ça s'appelle? Il faut dire qu'elle fonde avec Lacan la Société française de psychanalyse en 1953. Voilà. Elle va être exclue comme Lacan de l'Association psychanalytique internationale. Et en 64, elle suit Lacan, enfin, dans la création de l'école freudienne de Paris.
Voilà, donc elle a vraiment vécu les scissions. Elle les a vécues d'ailleurs de façon parfois assez douloureuse, parce qu'elle a été vilipendée, etc. Enfin, il faut voir ce qui s'est passé dans ces époques-là.
Mais qu'est-ce qui était en jeu? C'était l'héritage freudien, justement, à ce moment-là, non?
Oui, alors c'est un peu compliqué, les scissions. En tout cas, elle a été mise dans le même sac que Lacan pour des raisons différentes. Lacan a été exclu sur les séances courtes, etc., etc., alors que Françoise Dolto ne faisait absolument jamais de séances courtes, qu'elle prenait rendez-vous toutes les heures et que ses séances duraient 50 minutes, mais on lui reprochait des tas de choses, enfin on lui reprochait ce qu'elle était, et donc elle ne pouvait pas l'accepter.
En 1980, donc c'est quand même plus tard, hein, Jacques-Alain Miller écrit dans Libération « Une dissolution relève de la déontologie rendue urgente par l'impatience de ceux qui se sont exclus de fait, mais qui, parce que Lacan prend de l'âge, œuvre pour prendre le pouvoir. » Regardons Françoise Dolto, par exemple. Un analyste peut s'étonner de ce que fut son battage radiophonique. Il sait en effet qu'en matière de pédagogie, le bon conseil aux parents peut être ce qu'il y a de pire, et qu'il n'a jamais fait bouger un comportement sinon pour le conforter. Mais ce prêche sur les ondes trouve son sens quand Françoise Dolto publie en faveur de la religion. C'est du salut affirmé comme possible qu'il était en réalité question, et ce pour des oreilles qui ne voulaient point. Aussi, la liberté de parole dont se réclame Dolto tourne-t-elle à la ritournelle? Freud dénonçait déjà l'illusion religieuse comme matrice des névroses. On sent toute l'agressivité qu'il y a derrière ce texte.
Ah oui, une violence à quand même. Alors, c'est Jacques-Alain Miller et Mellement, qui étaient tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'il craignait? Donc, Françoise Dolto est au fait de sa notoriété à cette époque-là. Il craignait qu'elle veuille, entre guillemets, prendre le pouvoir. Ce qui, au monde, était ce qu'elle ne souhaitait pas, puisqu'elle n'a jamais voulu fonder d'école, et qu'elle était contre les écoles de psychanalyse. Ouais. Depuis le début, elle considérait que des écoles de psychanalyse, où à la fois on fait la formation, on dit qui est psychanalyste, enfin tout ça mélangé, ça allait pas du tout, et c'était complètement désuet. Donc, elle était, en plus, prendre le pouvoir, ça l'intéressait absolument pas. Et donc, on voit le manque de pertinence de personnes qui en principe ont été analysées, hein, et qui ne comprennent rien de ce qui se passe vis-à-vis de la personne qu'ils ont en face.
Non, mais ça rend pas plus intelligent d'être analysé.
Ah non, ça rend pas plus intelligent, mais ça lève quelques refoulements, et parfois c'est pas souhaitable. Et donc c'est d'une violence absolument incroyable, alors que Françoise Dolto approuvait Lacan de vouloir dissoudre s'il le voulait, mais n'a pas voulu le suivre à ce moment-là, parce que les personnes qui l'entouraient étaient des personnes qui l'avaient insulté. Et donc voilà, mais je pense que c'était très violent pour elle, et c'était surtout à un moment où son mari Boris était très malade, et franchement elle était plus soucieuse pour la vie de Boris que pour l'avenir de la psychanalyse.
Mais jusqu'où faut-il la suivre quand elle dit que Lacan était du côté de la théorie, elle de la pratique, hein, dans l'archive qu'on a entendu, elle disait bien que Lacan lui aurait dit « tu fais ce que moi je théorise », parce qu'elle, il n'y a pas du tout de système, ça c'est sûr, dans sa pensée, et elle écrit, c'est surtout les entretiens, etc. Elle est entièrement du côté de la pratique. Il y a bien un peu de théorie quand même dans son travail.
Et bien sûr, il y a énormément de théorie dans son travail. Le problème, c'est pas un problème, c'est que où est-ce qu'on trouve la théorie de Françoise Dolto? On la trouve dans deux livres qu'elle a publiés tardivement. L'image inconsciente du corps et au jeu du désir. Et quand on prend par exemple au jeu du désir, c'est une succession d'articles ou de conférences qui ont été prononcées. C'est-à-dire, elle est absolument pas universitaire. Et donc, la théorie se trouve toujours articulée à la pratique, c'est-à-dire elle part toujours d'exemples pratiques, etc. Et ensuite, je vais vous donner un exemple que j'ai relu hier, qui m'a beaucoup intéressé, que j'avais pas lu depuis longtemps. C'est dans Au jeu du désir. Donc, il s'agit de la réaction du puis-né, hein, de l'aîné plutôt à la naissance du puis-né. Alors, l'observation, c'est l'observation de sa famille. Ça paraît en 50, hein, 47, enfin, juste à ce moment-là. Donc, ses enfants sont tout petits, elle observe les réactions de l'aîné, puis du deuxième par rapport à la troisième. Donc, il y a une observation clinique incroyable qui est Carlos, Grisha et Catherine, comment ils sont débrouillés.
Les enfants, donc.
Les enfants. Ensuite, on l'a accusé de psychanalyser ses enfants, ce qui est totalement faux. Elle les a observés, comme d'ailleurs beaucoup de psychanalystes, mais seul Freud, enfin pas seul, mais Freud a analysé sa fille et d'autres s'y sont lancés aussi, mais pas elle, justement. Et ensuite, donc, il y a une deuxième partie qui est la partie théorique. Voilà, donc observation très très longue, puis partie théorique. Et sans arrêt, elle est, c'est comme ça. Et quand elle parle de clinique, en fait, la clinique se rapporte toujours à l'éthique de la psychanalyse. Hein, comment on fait, quand vous lisez les séminaires d'enfants où elle raconte comment elle fait, c'est toujours clinique, éthique. Hein, comment il faut faire, mais pourquoi il faut faire comme ça. Et à chaque fois, il y a des développements théoriques, mais effectivement, on ne lit pas un livre de théorie. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais quand on dit elle n'est pas théoricienne, si vous voulez, c'est un peu comme pour les philosophes, puisqu'on est dans cette émission. Vous avez des profs de philo et vous avez des philosophes. Vous avez des psychanalystes qui se servent des instruments des autres, et puis vous avez des psychanalystes qui se servent aussi des instruments des autres, et puis qui créent leurs propres outils de travail. Voilà, donc ceux-là, ce sont des théoriciens.
Ce qui n'a pas aidé à la prendre au sérieux aussi, c'est son apparition sur les ondes radiophoniques, puisque de 1976 à 1978, elle a tenu pendant 2 ans une émission sur France Inter qui s'appelait « Lorsque l'enfant paraît », dans laquelle les parents pouvaient poser des questions, elle répondait, l'émission a un succès fou. Tout de suite, sa parole était entendue, on s'adressait énormément à elle. En voici un extrait du 4 novembre 1977.
Une dernière lettre, Françoise Dolto, qui vous pose d'ailleurs 2 questions bien séparées, bien différentes l'une de l'autre. La première, c'est la suivante. Est-il bon de dire toujours la vérité aux enfants, même si cette vérité les fait pleurer ou amène des angoisses? Et puis l'autre question, eh bien, c'est que cette femme qui vous écrit voudrait retravailler. Elle a une fille de 8 ans, un garçon qui rentre maintenant à la grande école, et les enfants, eux, ne veulent pas. Elle sent que leurs enfants ont trop l'habitude de la trouver là quand ils en ont envie. Alors, est-ce qu'il faut le faire quand même, passer outre ou pas? Elle a perdu un enfant. Elle était enceinte, elle a perdu un enfant. Et lorsqu'elle est revenue de la clinique sans cet enfant, elle a également dit la vérité à cette fille, cette jeune fille de 8 ans, qui a également fondu en larmes. Alors, elle dit, toute vérité est-elle bonne à dire ou pas?
Mais naturellement, surtout à des enfants de 8 ans et 6 ans, il faut absolument dire la vérité. Et lorsqu'ils pleurent, mais oui, c'est triste, tu as raison de pleurer, et puis c'est tout, mais il faut absolument leur dire la vérité. Quant à sa question pour le travail, étant donné le minuscule budget qui est le leur, et le fait qu'elle sent la nécessité de travailler pour arriver à vivre plus facilement, c'est indispensable qu'elle travaille, elle doit le dire aux enfants, et ils apprendront ainsi la vérité aussi sur les conditions de la vie. Bon, ils seront un peu tristes de ne pas retrouver le soir leur mère, mais c'est ça la vie, c'est la réalité, et c'est la réalité qui l'étreint elle-même, et si elle reste ainsi à être soumise complètement à ce qui fait plaisir à ses enfants, elle ne les éduque pas, elle ne les arme pas pour la vie.
Comment vous expliquez le succès de ces émissions, Caroline Eliashev? C'est la seule à dire ces choses-là?
Écoutez, d'abord, ces émissions, c'est après 68. Je crois vraiment qu'il faut les situer. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que déjà en 1950, elle avait fait des émissions de radio. La Tribune de Paris sur... Alors, en 1950, l'éducation sexuelle des enfants. 5 émissions dans la Tribune de Paris. D'autres psychanalystes ont fait des émissions, Winnicott par exemple, sur la BBC, qui sont des émissions remarquables. Donc elle n'est pas la première à parler à la radio. Alors, effectivement, ces émissions ont eu un succès incroyable. Elles avaient été précédées auparavant, elle avait fait Dr X sur Europe numéro 1, qui était différente. Quand vous dites elle répondait aux parents, elle répondait aux lettres des parents. Oui. Ça, c'est très important. Donc, elle avait imaginé, donc, elle avait imaginé ça justement pour pas répondre juste à la parole des parents, que les parents aient le temps d'élaborer leurs questions, etc. Ils faisaient en réalité, ils avaient déjà les réponses à la fin de leur lettre. Le pari étant que, en répondant à une personne qui avait écrit, est-ce que ça pourrait aider les autres? Il semble que oui, parce que je veux dire, la France s'arrêtait comme pour un match de foot. C'était incroyable, hein, il n'y avait pas de podcast, donc à cette heure-là, la France s'arrêtait et écoutait Françoise Dolto pendant un quart d'heure. C'était absolument incroyable. Alors, c'est 69, 60, enfin après 68, et donc les jeunes de 68 devenaient parents. Ils devenaient parents parce que, ben voilà. Ils voulaient éduquer leurs enfants différemment de la façon dont ils avaient été élevés. Et donc, il y a une sorte de mayonnaise qui a pris. Parce que ce que disait Françoise Dolto, elle le disait depuis 30 ans. Hein. Mais ce qui a pris, c'est que c'est arrivé sur une génération qui effectivement était prête à l'entendre. Voilà, je crois que c'est ça qui a fait le succès.
Mais ce qui est assez étonnant, c'est que presque, enfin, 40 ans après, on pourrait imaginer que ce soit les mêmes questions qui soient posées. Je ne sais pas si les mêmes réponses sont apportées. Mais faut-il dire la vérité aux enfants ? On se pose toujours la question. Et la mère qui veut retourner au travail et qui se sent coupable à l'égard de ses enfants,
c'est toujours pareil. Et
donc ça veut dire quoi alors ? Pourquoi ? Enfin, on se pose les mêmes questions. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait ou...
Ben non, c'est-à-dire les générations se suivent et se reposent les mêmes questions et veulent.
Ça, c'est désespérant alors ?
Non, c'est pas désespérant du tout. C'est comme ça dans tous les domaines. Et bon, voilà.
Il n'y a jamais de progrès.
Si. Écoutez, les enfants, je veux dire, elle a, alors quand même, ce pourquoi elle est connue, c'est pour avoir changé le statut de l'enfant dans la société. C'est ça qui fait qu'on lui en veut tellement, d'ailleurs, je pense.
Oui, justement. D'ailleurs, aujourd'hui, on la tient pour responsable de ce qu'on appelle les enfants rois, ceux qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui ne suivent aucune limite et tout. C'est un malentendu.
Alors, c'est plus qu'un malentendu. C'est-à-dire, c'est un malentendu qui a un sens, parce qu'elle, elle prenait exactement l'inverse. Hein. C'est-à-dire, l'enfant est à égalité de désir, doit être respecté, on lui doit la vérité, etc. Mais l'enfant doit se confronter à des interdits. Hein. Elle appelait ça des castrations symboligènes. Alors, je pense que ce terme a fait malentendu, hein, parce que castration, ça veut dire mutilation. Et au contraire, dans son langage, castration, c'était une promotion par le langage pour passer d'un stade à l'autre. C'est-à-dire, en se confrontant à des interdictions, l'enfant est des interdictions par le langage, l'enfant est promu à autre chose. Donc, on voit déjà là la confusion possible. Alors, effectivement, je pense que les parents, si vous voulez, à une époque où l'autonomie, le bien-être, etc. devenaient des valeurs, ont un peu oublié, alors ils ont commencé à parler, à trop parler, etc., etc. Ils ont un peu oublié la suite, hein, c'est-à-dire poser des limites, l'interdiction, etc., etc. Voilà, mais elle l'a dit. Donc oui, il y a eu un malentendu, et je pense que s'il lisait quelques articles, il verrait que c'était pas tout à fait comme ça. Cela dit, la difficulté pour les parents, c'est effectivement de poser ces interdictions d'une autre manière. C'est ça qui est difficile. Hein, ce qui est difficile, c'est de ne pas humilier, de ne pas taper, de ne pas être autoritaire. Alors comment on fait ? C'est là la difficulté. Les parents, ils veulent bien, hein, ils veulent bien ne pas taper leurs enfants, etc. Mais comment on fait ? C'est là que la difficulté commence.
Et alors, elle insiste beaucoup sur la place. Alors, on l'a dit, hein, par rapport aux apports que Françoise Dolto fournit dans le travail psychanalytique. Il y a les stades précoces de l'enfant, il y a la communication intrapsychique, l'importance du langage, l'image inconsciente du corps aussi, et le rôle, enfin la place de l'enfant au sein d'un couple. Et ça, elle insiste bien là-dessus. Elle dit l'enfant n'est pas, ne doit pas être la priorité du couple.
Oui, il ne doit pas être au centre, il doit être à la périphérie. Alors ça, elle n'a pas été trop écoutée là-dessus. Soit l'enfant est absolument plus dans le couple, c'est-à-dire il est éjecté du couple pour des tas de raisons, soit au contraire il est au centre, ce qui est pas du tout bon pour lui. L'enfant doit réaliser pour le meilleur que sa mère est aussi une femme pour l'homme qu'elle a choisi et qu'elle travaille, et que c'est ça qui plus tard va lui donner plutôt envie d'en faire autant plutôt que d'être au centre du couple. Donc là-dessus, elle l'a dit, elle l'a pratiqué,
oui.
Elle l'a pratiqué dans sa propre famille, et voilà, donc...
Et comment, alors, est-ce que ça veut dire que ses écrits n'ont pas été retransmis ? Est-ce qu'il y a des héritiers aujourd'hui de Françoise Dolto ? Des héritières qui perpétuent le travail, qui reprennent ses thèses, qui les travaillent, qui les transmettent ?
Oui, bien sûr. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que elle a donc travaillé à la radio pour la société, on va dire, et puis elle a énormément transmis à la fois aux psychanalystes, en les prenant en contrôle, et aux consultations publiques de Trousseau, mais aussi à tous les professionnels de l'enfance. Elle faisait des conférences pour les professionnels de l'enfance. Toutes professions confondues, les juges, les assistantes sociales, les professeurs, enfin toutes les... Et donc, toutes ces personnes ont pris des choses, et ça infuse, si vous voulez. Alors maintenant, quand ils travaillent, ils ne disent pas « je dois ça à Françoise Dolto », mais ça a incroyablement infusé, même si ça n'est... Encore une fois, s'ils ne se réveillent pas le matin en se disant « je dois ça à Françoise Dolto ». Alors, c'est la même chose dans les crèches, c'est la même chose dans les services de médecine. Bon, elle n'est pas la seule à à être sortie de son cabinet. Alors ça aussi, c'est intéressant. On dit elle est sortie de son cabinet, les psychanalystes étaient enfermés dans leur cabinet. Non. À Vienne, 1920, c'est-à-dire les tout débuts de la psychanalyse, les premiers psychanalystes sortaient de leur cabinet et allaient, enfin, consacraient un cinquième de leur temps pour les gens défavorisés et avaient l'idée que le monde serait meilleur si la psychanalyse se diffusait. Donc ce sont des idées anciennes. Alors, évidemment, la guerre a cassé un petit peu ça, mais les psychanalystes n'ont jamais été enfermés dans son cabinet. Et quand elle dit « j'étais une psychanalyse citoyenne », psychanalyste dans la cité, etc., n'était pas du tout la seule.
On a parlé de sa complémentarité avec Lacan. Qu'en est-il de son rapport à Freud? Elle était héritière, fidèle à Freud, elle le critiquait?
Alors, elle était tout à fait, elle le disait, hein, elle était freudienne, et en même temps, parfois, quand elle parlait d'un texte de Freud, elle disait, ben là, je suis pas d'accord, etc., etc. Bon, ce qui est une... Alors, c'est vraiment ça, une manière d'être fidèle, hein, c'est-à-dire
de critiquer.
Oui, pour avancer. Françoise Dolto, comme d'autres, comme beaucoup d'autres, est quelqu'un qui, pour qui la psychanalyse était quelque chose de vivant, qu'il fallait donc faire vivre, et faire vivre en confrontant effectivement ce qu'elle avait reçu avec ce qu'elle voyait, etc., etc. Alors, ce qu'elle a beaucoup développé par rapport à Freud, c'est ce qu'on appelle les stades pré-œdipiens, c'est-à-dire avant l'âge de l'Œdipe, qui était très peu développé, mais là aussi, elle n'est pas la seule. Vous avez parlé de Mélanie Klein, je crois, demain. Bon, Mélanie Klein, quelqu'un aussi qui s'est beaucoup intéressée au stade pré-œdipien. Françoise Dolto ne l'aimait pas beaucoup, d'ailleurs.
Et pourquoi pas?
Parce qu'elle la trouvait... elle l'avait rencontrée une fois, elle trouvait qu'elle avait beaucoup d'aura, et en même temps, elle trouvait qu'elle appliquait sa théorie. Voilà, ça, c'était sa grande idée, que Mélanie Klein appliquait sa théorie aux enfants, plutôt que de recevoir ce que les enfants disaient pour en faire une théorie. Donc, elles étaient aux antipodes, je pense, l'une de l'autre, même comme personnalité, probablement.
Bon, on creusera ça mercredi prochain. On peut se demander, quand on vous écoute et quand on écoute Françoise Dolto, ce qu'a donné concrètement son travail de transmission, à la fois psychanalytique, ça je vous ai interrogé par rapport à l'héritage de Françoise Dolto aujourd'hui, mais même au sein de sa famille, puisqu'elle a beaucoup appliqué les choses à sa propre famille. Voici donc la voix de Catherine Dolto, la fille de Françoise Dolto.
Maman disait toujours, moi, quand je ne suis pas dans mon bureau, je ne suis pas psychanalyste. Et par exemple, elle voulait jamais nous donner d'interprétation de quoi que ce soit, de nos rêves, etc. Un jour, je l'ai beaucoup tannée quand j'avais 17 ans, pour qu'elle me... j'avais un rêve qui me taraudait, et elle voulait pas. Puis un jour, je me dis, bon, d'accord, vas-y, raconte-moi ton rêve. Puis je commence à lui raconter, et puis elle me répond, et elle me dit, ça pourrait être que... Et puis c'est une chose que je lui cachais soigneusement depuis des mois. Alors j'ai rougi comme une tomate, et elle m'a dit, mais tu sais, je me trompe certainement. Puis ça s'est arrêté là. Mais je voyais bien, à côté des autres enfants de psychanalystes, comme c'était différent, parce que dans leur famille, on interprétait beaucoup. L'éducation était très psychanalytique, si j'ose dire. Et on en parlait avec les parents, et maman me disait, mais oui, votre chance à vous, c'est que moi j'avais terminé mon analyse quand je vous ai eu. Il n'y avait pas d'interprétation sauvage. Et chaque fois que je la vivais à travers leurs amis, j'étais très choquée et très mal à l'aise.
Catherine Dolto, au micro de Laura Adler, dans l'émission Hors Champ en 2014. Ça vous fait sourire, Caroline Eliachef, ce témoignage?
Oui, parce que les enfants de psychanalyse se plaignent beaucoup.
Ah oui?
Ah oui, c'est terrible d'être... Enfin, les enfants de psychanalyse qui
viennent... Tous les enfants se plaignent, non, de leurs
parents? Oui, bien sûr. Enfin, les enfants de psychanalyse, encore plus que les autres. Ils ont payé un lourd tribut. Pas les enfants Dolto, mais les autres ont payé un lourd tribut. D'abord, les observations, et puis effectivement, les interprétations, quand ils n'ont pas été sur le divan de leur père psychanalyste. Donc, voilà, il faut beaucoup remercier les enfants de psychanalystes.
C'est comme des cobayes, c'est ça?
Oui. Certains, pas tous, bien entendu, mais quand même. Et puis effectivement, il y a cette tentation d'appliquer à ses enfants ce qu'on entend ailleurs. Bon, voilà, en sortant de son bureau, il faut oublier tout ça, quoi. C'est assez facile d'ailleurs. Moi, je trouve pas ça difficile du tout.
Pour interroger vos enfants, alors.
Ouais, moi, mes enfants, ils me disaient toujours, tu nous écoutes pas, ce qui était vrai.
Qu'est-ce qui a changé, une dernière question, Caroline Eliachef, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport à tous les témoignages de Françoise Dolto qu'on entend et ses écrits? Elle est morte en 88. Dans quelle mesure est-ce que la place accordée à l'enfant, par exemple, en psychanalyse, a continué à évoluer?
Écoutez, je pense qu'on est plutôt dans une phase de régression. Vraiment, c'est-à-dire que ça prouve aussi à quel point c'était probablement tellement révolutionnaire que il faut que ça soit effacé pour revenir. Quand on voit aujourd'hui ce qui est proposé aux nourrissons, enfin j'ai entendu ça l'autre jour, des petits ateliers dans les crèches pour que ceci cela, etc. On oublie que les nourrissons sont capables d'apprendre des tas de choses, mais d'abord l'affectivité, et on oublie un petit peu. Les nourrissons, les enfants deviennent des petits singes savants à qui il faudrait qu'on apprenne à bien parler pour qu'ils puissent suivre une maternelle normalement. Alors je suis tout à fait pour le fait qu'on s'intéresse beaucoup plus à la petite enfance, au niveau gouvernemental par exemple, hein, et qu'on mette le paquet dès la naissance, mais comment ? Pas en essayant de les éduquer précocement, etc. Si on ne les prend pas avec leurs parents, et c'est, là aussi, la maison verte, c'est un instrument incroyable. Hein. Les instruments existent, on sait ce qu'il faut faire. Encore dans les maternités aujourd'hui, on sépare les nouveau-nés de leur mère pour les mettre dans la chambre d'à côté. Enfin, je veux dire, on ne tient pas compte des immenses apports de Françoise Dolto, on veut faire, et d'autres, hein, j'en fais pas tout inventé, loin de là, mais quand même, et donc, comme s'il fallait faire table rase, et on recommence. Hein. Alors, l'enfant aujourd'hui est quelqu'un qui doit être autonome, éduqué, être prêt pour entrer à l'école maternelle, réussir dès l'école maternelle, parce qu'on sait que sinon ça va pas aller, etc. Mais tenant compte de tout ce qu'on a dit depuis vraiment longtemps, et Françoise Dolto en particulier.
On a entendu Catherine Dolto, la fille de Françoise Dolto. On se quitte avec Carlos, le fils de Françoise Dolto, Papayou.
Quand je suis venu au monde, ma mère m'a tout donné. Bien ronde, des pieds, des grands pieds pour marcher, pour danser. Mais la plus belle chose qu'elle ait pu me donner dans le fond, c'est à peine si j'ose le dire, c'est mon papayou, 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 papayou lélé. C'est le plus beau des papayou lélé qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 papayou lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, ça ferait plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, ça ferait plein de méchants qu'on n'en parle si grand, il faut pas le montrer du tout. Non.
Merci beaucoup Caroline Eliashev d'être venue nous parler de Françoise Dolto ce matin.
Merci à vous.
Et je renvoie à la lecture de votre livre Françoise Dolto, une journée particulière, un livre passionnant, et on vous lit vraiment ligne après ligne, comme un peu comme un roman, puisqu'on suit Françoise Dolto dans son quotidien. C'est un ouvrage qui est disponible aux éditions Flammarion.
Garde-le pour moi, ne le montre pas, ça ferait des jaloux dans le quartier.
Et oui, de Carlos à Géraldine Mosna-Savoie, on est bien sur France Culture, il est l'heure du journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Alors vous avez lu de la métaphysique ce week-end.
Eh oui Adèle, vous pouvez trouver ça ringard, bizarre, voire pédant, mais j'ai bien lu de la métaphysique ce week-end. Il faut dire que j'avais été happée par le titre de ce livre qui vient de paraître, Manifeste métaphysique, et par ces quelques lignes qui l'ouvrent. Toute évocation de la métaphysique se prête au pesage du moindre mot à la balance électronique et à une multitude de considérations byzantines, le genre de choses qui normalement fait instantanément fuir 98,73% de la population. Nous allons éviter un tel exercice car l'objet de ce livre n'est pas de faire un pesant étalage d'érudition, mais de poser quelques balises sur ce que pourrait être une métaphysique pour maintenant. Let's swim to the moon.
On our moonlight drive.
On voudra bien nous pardonner les raccourcis, approximations, à peu près, etc. Mais il sera quand même au minimum question d'Aristote, d'Alain Badiou, de René Descartes, de Gramsci, d'Heidegger, de Kant et de Jim Morrison. D'où donc cette chanson des Doors. Alors j'ai raccourci la liste des noms donnés au début de ce manifeste métaphysique de Dominique Quesada et Raphaël Liogier, mais vous comprenez pourquoi j'ai été happée. Vouloir remettre au goût du jour la métaphysique avec un tel name-dropping est forcément attractif. Mais je me suis surtout demandé à quoi pourrait ressembler une métaphysique pour maintenant. La formule est doublement frappante, déjà parce que la métaphysique semble déconnectée de toute temporalité, et ensuite, le pour maintenant semble sous-entendre que la métaphysique serait utile pour faire quelque chose, pour agir. Mais comment ? Que peut nous apporter la métaphysique ? Et la rendre utile, en faire quelque chose pour maintenant, à la sauce Jim Morrison, n'est-ce pas la forcer à être ce qu'elle n'est pas, à savoir un savoir détaché de notre monde et de ses références ?
La question de l'être est aujourd'hui tombée dans l'oubli. Notre époque, certes, met à son compte comme un progrès de tenir à nouveau en faveur la métaphysique. La question que nous touchons là n'est pas une question quelconque. Elle a tenu en haleine Platon et Aristote dans leur investigation. Il est vrai aussi qu'elle s'est tuée à partir de là, en tant que question et thème d'une recherche véritable.
La philosophie n'a été qu'une longue lutte avec la métaphysique pour la remodeler ou pour la critiquer. Après l'annonce de sa mort, il était donc évident que la métaphysique reviendrait. Et oui, la philosophie est comme tout, elle a elle aussi ses modes. Un jour, c'est Platon qui a la cote et l'autre, c'est Nietzsche. Donc c'est pareil pour la métaphysique. Déjà, des penseurs contemporains comme Quentin Meillassou ou Tristan Garcia avaient sonné le rappel. Une collection aux presses universitaires de France, la réapparition de questionnements du type « qu'est-ce que ?», des tournants métaphysiques même chez les anthropologues, des traités sur les choses et surtout l'émergence du courant réalisme spéculatif. Le philosophe Patrice Maniglier l'explique très bien et explique très bien cette mode dans des entretiens parus au CERF. Et ce manifeste le dit aussi, l'époque doit être à la métaphysique. Et pourquoi ? Eh bien car on a besoin de revenir à l'essence des choses pour comprendre la manière dont elles s'organisent pour former un monde commun. Mais comment y revenir et dans quel but ?
Et je suis j'ai vu.
Qui suis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je ? Ces questions à la fois abyssales et basiques doivent être réhabilitées. Pourquoi donc ? Eh bien, je vais vous donner trois arguments. Déjà, parce que loin d'être abstraites, elles se confrontent au réel. Les poser, tenter d'y répondre, c'est formuler des hypothèses sur le réel, à partir de la seule expérience de la pensée, de la spéculation, dont l'économie n'a pas le monopole. Ensuite, parce que ces questions, comme l'explique le manifeste métaphysique, sont le signe d'un questionnement qui refuse la soumission à l'autorité des choses et des institutions, à partir de sa seule pensée, à partir de soi. Enfin, parce que se demander de telles choses, c'est revenir au commencement, aux aurores, pour inaugurer une nouvelle époque. D'où le fait que la métaphysique soit donc pour maintenant.
Merci beaucoup Géraldine, et j'aime beaucoup la question d'où viens-je. Alors vous aviez deux conseils de lecture à nous faire.
Alors donc Manifeste métaphysique, c'est donc de Raphaël Liogier et Dominique Quesada qui paraît au lien qui libère. Et puis j'en profite pour signaler les conversations de Patrice Maniglier avec Philippe Petit, la philosophie qui se fait aux éditions du Cerf. On y comprend cette mode de la métaphysique.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine à la prise de son. Aujourd'hui, c'était Audrey Guélil à la lecture du texte de Françoise Dolto, Noémie Lvoski. On se retrouve demain pour la suite de cette série autour des héritiers de Freud. Faut-il tuer Freud ? C'est la question qu'on pose chaque jour. Aujourd'hui, la réponse était non. Eh bien, demain, ce sera la réponse de Carl Jung. Donc, je pense que la réponse sera différente. Et c'est Pierre Trigano qui viendra vous en parler. D'ici là, pour écouter cette émission, c'est très facile. Vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où nous serons ravis de répondre à vos remarques et à vos commentaires. J'en profite pour annoncer aussi l'émission LSD sur France Culture qui, cette semaine à 17h, vous propose une série documentaire autour du thème « Faire famille ». C'est un lien avec l'émission du jour. On se retrouve demain à 10h donc. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.